avec Encher lors du festival de la BD d'Angoulême pour la sortie de Le Banni aux éditions Le Lombard. Bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce que est née l'histoire ?
En fait, l'histoire, c'est un projet que j'ai créé dans mon coin. J'étais en train de lire en fait Le Trône de Fer de George Martin et j'étais très influencé par son approche du genre et la façon dont il abordait le genre à la fois avec des méthodes qu'il amenait de la télévision américaine, des séries, lui vient de la télé. Il adaptait les méthodes de la série télévisée américaine au genre médiéval fantastique, avec un vrai propos derrière, et surtout des vrais personnages, avec une vraie psychologie, sans héros, c'est-à-dire que chaque protagoniste pouvait évoluer dans un sens comme dans l'autre, il n'y avait ni bon ni méchant, c'est une vraie découverte. Et de mon côté, j'étais en train de travailler sur... je voulais raconter une histoire sur la vanité de la quête de gloire et la façon dont on écrit l'histoire. Et ça s'est imbriqué, ça s'est rencontré et le Banni est sorti pratiquement en une heure de temps. En une heure de temps, il était créé, il a pratiquement pas bougé depuis. L'histoire et le monde n'ont pas vraiment évolué depuis. Et derrière, j'ai commencé à travailler avec un dessinateur qui a laissé tomber le projet. C'est comme ça que, du coup, j'ai été contacté par Tarumbana après avoir pitché le projet sur le forum de la communauté du Café Salé sur Internet.
Ces personnages assez anciens, enfin, ils sont âgés, oui, vieux carrément, disons-le. C'est important qu'ils aient eu toute leur capacité, pas derrière eux, parce qu'ils sont encore bien vigoureux, mais c'est important d'avoir des personnages très forts dès le départ et justement de ne pas repartir sur une quête initiatique un peu vue 50 000 fois.
En fait, je voulais introduire de vrais personnages, donc avec une vraie psychologie, une vraie profondeur, et ces personnages, il faut qu'ils aient un vécu. Pour qu'ils aient un vécu, il faut soit que dans leur existence relativement courte, ils aient vécu des choses traumatisantes, soit effectivement, ils aient vécu suffisamment longtemps pour avoir un certain recul et sur l'existence et sur certaines notions. Et en même temps, il est né vieux. Le Banni est né vieux au sens où j'ai eu le flash de ce personnage. Le principe directeur du Banni, c'est que normalement, pour accéder au statut de légende, on meurt. On devient légendaire à partir du moment où on disparaît. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça fait de survivre à sa propre légende? Et en filigrane, j'avais une espèce d'accroche qui était le fait que toute légende est un mensonge et que plus une légende est belle, plus la réalité qu'elle cache est inavouable. Et je me suis dit, comment est-ce qu'un type qu'on encense, qui est le sujet de nombreuses chansons de geste, qui a un exemple pour la jeunesse, comment ce type vit avec ça sur les épaules, surtout quand lui connaît la réalité qui est derrière? Et petit à petit, derrière, j'ai introduit d'autres éléments. J'avais envie d'un monde extrêmement brutal, un monde extrêmement charnel, avec beaucoup de choses par rapport, avec des rapports au corps. Un monde de chair et de sang, en fait. Pas désincarné comme on peut le voir souvent, ou comme on peut souvent envisager l'heroic fantasy. Et du coup, c'était une espèce de... En gros, ma ligne de travail, c'était je veux faire impitoyable dans un monde médiéval fantastique. Voilà, c'était la... Moi, ma référence clé, c'est Clint Eastwood qui ressort ses flingues dans Impitoyable, qui essaye de tirer sur une boîte de conserve et qui n'y arrive pas. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de panache, il n'y a pas de gloire, il n'y a plus rien, il y a juste un type et le temps qui a passé. Et c'était ce genre de personnage que je voulais traiter.
L'idée des transcendants, comment vous l'avez eue?
Alors, les transcendants, c'est une cosmogonie qu'on va expliquer dans le tome 2, donc je ne vais pas en dire trop. Et c'est effectivement des petits coups de canif vis-à-vis d'une certaine façon d'envisager la religion. C'est comment on unifie un territoire sous une religion et les excès que ça peut entraîner. Mais comment ça m'est venu? Ça m'est venu de façon... C'est très dur de dire d'où ça... Ça vient de plein de sources, de plein de choses que j'ai digérées tout au long de mes lectures, des films que j'ai vus, des expériences que j'ai pu avoir dans la vie. C'est tout un tas de choses qui tout d'un coup se cristallisent et donnent cet élément qui apparaît dans l'histoire. C'est très dur de dire d'où vient précisément l'inspiration. Il y a des choses, j'en suis parfaitement conscient, je sais d'où ça vient. Donc je peux citer Le Trône de Fer, je peux citer Impitoyable. On m'a cité Dune à un moment, une référence à Dune à cause d'un des personnages. Le personnage de Aberar, qui est le marchand, le vieux marchand qui essaye de pousser sa fille sur le trône. Très honnêtement, ça doit être très inconscient parce que j'ai très très peu de souvenirs de Dune, dont j'ai dû lire que le premier tome il y a très très longtemps, j'avais 10 ou 11 ans, donc c'est très très vieux.
monde dur, pas vraiment dark fantasy, mais on a l'impression que c'est les hommes qui le rendent comme ça. Le monde en lui-même, il a pas l'air si impitoyable, il n'y a pas de monstres à l'extérieur qui vont les tuer. C'est parce que vous avez pas trop foi en l'homme que vous mettez autant d'hostilité à l'extérieur?
Je suis effectivement pas forcément d'une nature très... C'est pas vrai, je suis très ambivalent par rapport à la nature humaine. C'est-à-dire que, et c'est ce que je veux retranscrire en fait là-dedans, c'est qu'on peut trouver aussi bien le meilleur que le pire, et pas forcément chez les personnes auxquelles on s'y attendrait. Et on est tous pareils, je veux dire, on peut faire le meilleur comme le pire. Et ensuite, effectivement, le monde est totalement neutre, en tout cas en l'état tel que nous on l'introduit. Il est totalement neutre, le monde il a rien demandé, il représente pas de danger particulier pour les hommes qui l'habitent, hormis la faune, mais c'est effectivement on voulait se débarrasser de tout ce qui était archétype des créatures magiques. Donc non, il y aura pas de dragon, non, il y aura pas de troll, non, il y aura pas d'elfes, ça y a pas. On laisse de la place pour le merveilleux. Le merveilleux, c'est jamais que finalement une interprétation de la réalité. C'est-à-dire qu'un type qui est précédé par une légende démesurée le concernant, quand il apparaît sur un champ de bataille, forcément il va avoir un avantage, ne serait-ce que psychologique, sur une armée qui est en face de lui. Ce serait un combattant lambda, il serait massacré comme les autres. Là, c'est juste que derrière, c'est la puissance en fait de la création d'un mythe. Mais effectivement, ce qu'on voulait, c'était axer le récit sur les personnages. Donc l'histoire se fait à travers les personnages. C'est les personnages qui sont le moteur de l'histoire. C'est les personnages qui ont des objectifs qu'ils veulent atteindre. Il y a un conflit qui naît d'objectifs contradictoires. Et effectivement, le monde qui est autour tourne autour de leur... l'évolution du monde épouse en fait l'évolution des personnages. Il y a pas mal de correspondances entre ne serait-ce que la capitale qui reflète l'espèce de lutte entre les anciens et les modernes qui se crée entre les générations en fait, qui se crée, c'est d'autant plus ironique que finalement... Le banni a été à la place des jeunes loups qui sont en train de pousser il y a 30 ans. Ce qu'il voit, c'est une espèce de miroir. Et il affronte une espèce d'image déformée de lui-même à 30 ans de distance.
Comment s'est fait le choix de la couverture?
Alors la couverture, ça a duré 6 mois. Il y a eu plusieurs versions. Il y avait chez et les auteurs et l'éditeur plusieurs camps, entre guillemets. Donc il y avait plusieurs versions qui avaient la faveur. Soit du marketing, soit de l'éditeur qui nous suivait, Gauthier Van Merbeek, soit du scénariste, donc moi, soit du dessinateur. On a mis un long moment à décider quelle serait la couleur, est-ce qu'il fallait rajouter des personnages en filigrane derrière le banni, dans quelle position il fallait le mettre, quelle devait être la teinte principale de la couverture, comment devait être aussi la typographie. On a beaucoup itéré là-dessus. Pour finalement trouver une solution qui, après coup, apparaît comme évidente, mais qui, étant donné les premières versions qui avaient été proposées, l'était absolument pas en fait. Mais en secret, je voulais cette pose. C'est en partie tiré d'une illustration que Tarumbana a faite pour le plaisir et qui m'avait montré. Et j'étais tombé devant et je m'étais dit, ce serait une couve parfaite. Et quand on est parti sur tout à fait autre chose, j'ai fait un tout petit peu de lobbying auprès des uns et des autres. Pour comprendre ça. Et finalement, le résultat est là. Quoi.
Est-ce que vous savez quel est le personnage qui est le plus demandé en dédicace?
Alors, on a le banni, évidemment. Et on a, Elysia, qui est la grande prêtresse du culte des transcendants. Et un truc qui me fait, une demande qui me fait très très plaisir, parce qu'elle arrive de plus en plus, c'est le personnage d'Alaric. Donc, Alaric, c'est un mauvais garçon qui se trouve être le fils unique... d'un ancien mercenaire, donc un ancien compagnon du banni, et qui est une espèce de force de la nature au caractère absolument effroyable. Et j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage en fait. C'est un personnage qui s'est imposé en fait beaucoup plus dans le récit qu'il n'aurait dû au départ, parce que Tarumbana tout d'un coup a créé un personnage au-delà de mes espérances. J'avais fait des demandes assez sommaires en fait concernant le personnage, que je voyais que passer une fois dans le récit. Et quand j'ai vu arriver le personnage sous sa forme finale, je me suis dit, un truc pareil, c'est hors de question qu'on gâche comme ça. Et c'est un personnage pour lequel j'ai de plus en plus de sympathie, ou en tout cas de tendresse, parce que je le comprends en fait. J'ai beaucoup d'attachement pour les personnages qui ont des fêlures, les personnages qui sont pas mauvais, mais qui ont un comportement qu'on pourrait qualifier de mauvais, parce que finalement il a ses raisons à lui. Ce sera expliqué, Et donc, oui, c'est un spoiler pour la suite. Il sera dans la suite. Il sera dans le tome 2.
On a une question pour terminer nos interviews. C'est est-ce que vous préféreriez avoir la vie éternelle ou le don d'ubiquité?
Je pense que ce serait le don d'ubiquité. Parce que je pourrais écrire plus de bouquins. La vie éternelle, je pense que c'est un peu trop. C'est un peu trop et c'est un coup à passer le restant de ses jours, et c'est-à-dire une éternité, en dépression nerveuse, donc sous calmant. Donc je pense pas que... Non, définitivement, je prendrai le don d'ubiquité.
Un mot pour conclure ?
Achetez le Banning. Tout ce que je vous garantis, c'est qu'il y a un dessin absolument extraordinaire. C'est un premier album. Dans 2, 3, 4, 5 ans, Tarumbana va faire des choses absolument extraordinaires, j'en suis convaincu. Moi, le jour où j'ai vu la première planche terminée, je me suis dit, il est hors de question que ce garçon, que ce soit avec moi ou un autre, ou une autre d'ailleurs, il ne perce pas dans la BD. Et je peux promettre qu'on est honnête vis-à-vis du lecteur. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les lecteurs pour des imbéciles, qu'on leur fait confiance, et qu'on pense qu'ils sont tout à fait aptes, voire même demandeurs, de véritables histoires avec de vrais personnages, de vrais enjeux, et un vrai discours sous-jacent. C'est ce qu'on essaye de faire, et je ne sais pas si on va réussir. C'est assez ambitieux, parce qu'en 46 pages, c'est quand même extrêmement dense, et c'est un pari assez compliqué à tenir. Mais en tout cas, l'aventure est passionnante, nous concernant.